Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Une plainte contre le Rwanda auprès des instances judiciaires internationales, c'est ce que propose la Belgique au gouvernement congolais. Roxane de Bilderling, ambassadrice belge en Kinshasa, l'a dit devant la presse ce week-end à Goma, en Nord-Kivu. Raison avancée par la diplomate belge, le principe d'intangibilité des frontières garanti par le droit international. La réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens aux projets de développement en vue d'améliorer le social des Congolais, c'est le cheval de bataille de la première ministre de la RDC. Elle a fini ce week-end des tractations en vue de la formation de son gouvernement, notamment par des échanges avec des forces politiques présentes au Parlement. L'invité de ce journal, c'est le professeur Ngoma Binda, politologue et auteur de plusieurs livres d'éthique politique. Il plaide pour la réduction drastique de l'équipe gouvernementale, la suppression de certaines institutions et surtout la diminution des salaires et avantages attribués aux décideurs politiques. Bonjour à tous. La Belgique demande au gouvernement congolais de porter plainte contre le Rwanda auprès des instances judiciaires internationales. C'est l'ambassadrice belge en poste à Kinshasa qui l'a dit ce week-end à Goma en Nord-Kivu devant la presse, après avoir évoqué le principe d'intangibilité des frontières de chaque pays tel que reconnu par le droit international. La diplomate belge a affirmé par la même occasion que son pays avait déjà condamné l'agression de la RDC par le Rwanda au regard des massacres et autres tueries extrajudiciaires perpétrées sur le sol congolais. Les propos de Roxane de Bilderling ont été recueillis par Gabriel Ouaménia.
Je voudrais quand même rappeler qu'on a condamné la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais, qu'on a demandé au Rwanda de les retirer et de retirer son soutien au M23. On l'a demandé clairement et ce sont des messages qui ont aussi été passés, je l'ai dit tout à l'heure, lors de la visite de notre ministre à Kigali. Donc je pense que c'est quand même important de le rappeler. Ça ne suffira pas. Une façon de faire pression, c'est que le Congo introduise aussi une plainte auprès de la Cour internationale de justice pour non-respect des frontières internationales. Parce que le Congo l'a déjà fait auparavant contre d'autres pays, contre l'Ouganda par exemple, et a obtenu gain de cause et même des réparations par rapport au mal qui avait été commis. Et donc je crois qu'à partir de ces informations-là qui attestent de présence de troupes étrangères sur le sol congolais, il y a matière pour le Congo à introduire une plainte auprès de la Cour internationale de justice pour le faire. Je sais qu'il y a déjà des plaintes qui ont été introduites près d'autres cours, par exemple auprès de la Cour pénale internationale, mais ça c'est différent. Ici c'est vraiment une question de relations entre États et de non-respect du droit international, de non-respect des frontières. Et je crois que ça pourra pousser aussi pas mal de pays à mieux reconnaître ce qui est en train de se passer.
Roxane de Bilderling a également proposé une solution diplomatique et politique pour dénouer la crise sécuritaire entre les parties au conflit en RDC. Sur le terrain, toujours au nord Kivu, les éco-gardes de l'ICCN évacuent le poste de la Rwindi depuis au moins 5 jours déjà. Si l'ICCN se garde de communiquer sur la question, le comité des jeunes du territoire de Rutshuru affirme que ces éco-gardes partent sur une contrainte du M23. Dans un communiqué de presse rendu public ce week-end, cette structure estime que ce vide menace le parc national des Virunga, dont la dévastation est accélérée avec l'occupation par le M23 de cette partie du Nord Kivu. Le président du comité des jeunes de Rutshuru plaide pour une intervention des instances nationales et internationales. Patient Tuiseré, joint ici par Bernard Nyangi.
Il y a 4 jours que les éco-gardes qui étaient basés à la Rwindi ont commencé à quitter parce que les terroristes du M23 leur avaient donné un ultimatum de 48 heures de quitter. Nous estimons que ça représente une menace grave, surtout que le parc national de Virunga est actuellement menacé par ces terroristes. Ça, c'est pourquoi nous avons écrit pour alerter les autorités du gouvernement congolais, mais également aussi l'UNESCO qui gère tout le patrimoine mondial pour que l'UNESCO et les autres organisations qui interviennent dans la conservation puissent intervenir par l'urgence. Parce que les éco-gardes ont un statut de non-belligérants. Mais voilà maintenant, les terroristes du M23, ils exigent que les éco-gardes puissent quitter cette partie qui peut parler des espèces rares, des éléphants et d'autres espèces là-bas. On ne sait pas quelle est la mission de ces terroristes pour qu'ils puissent demander aux éco-gardes de quitter cet patrimoine mondial qui est menacé actuellement. Nous avons des informations selon laquelle les terroristes du M23 sont en train de couper les arbres, ils font des planches, ils exportent ça au Rwanda et en Ouganda.
Rappelons que malgré l'occupation de la Rwindi par le M23 depuis le 9 mars dernier, les éco-gardes fidèles à leur mandat et statut de neutralité par rapport à ce conflit armé sont restés sur place pour protéger la vallée stratégique de la Rwindi et aussi pour veiller sur les infrastructures immobilières ainsi que sur une piste d'atterrissage stratégique de cette base de l'ICCN. Et pendant ce temps, dans le territoire de Lubero, il ne se passe pas deux jours sans qu'on enregistre un décès dans le cas des déplacés de Kanyabayonga et pour plusieurs raisons, selon le représentant de ces déplacés qui ont fui les combats entre les FRDC et le M23 dans le territoire de Rutshuru. Richard Kaloumé appelle le gouvernement et les humanitaires à assister ces vulnérables. Le point avec Guylaine Kassassia.
Six nouveaux cas de décès ont été enregistrés en l'espace de 3 semaines dans la commune de Kanyabayonga. Le dernier cas en date est celui d'une femme d'une 40aine d'années morte jeudi dernier, faute de prise en charge médicale, ce qui fait un total de 18 décès en l'espace de 40 jours, comme l'explique Richard Kaloumé, représentant des déplacés à Kanyabayonga et qui appelle le gouvernement et les humanitaires à une intervention d'urgence.
À l'heure où je vous parle, nous venons d'enterrer le 18e cas de décès à l'intervalle de 40 jours. Les uns sont décédés par la famine, d'autres par la maladie. Si la situation ne s'améliore pas, nous risquons d'aller au-delà de ça. Malheureusement, on ne voit pas les gouvernements se pencher beaucoup plus à la situation des déplacés dans cette partie. Même les humanitaires ne sont pas aussi fréquents. C'est ce qui fait compliquer la situation au point qu'on est en train d'enregistrer les décès chaque 2 jours. Il y a aussi un problème sérieux des soins médicaux.
Dans la commune de Kaina voisine, la situation est presque similaire. Là, on parle plutôt de 7 décès. Le bourgmestre de cette commune, Clovis Osmar Kanyaruru, estime que la plupart des morts se comptent parmi ceux à qui on a prescrit des ordonnances médicales alors qu'ils sont sans ressources. Et l'assistance médicale offerte par le gouvernement ne concerne que les soins primaires. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Et puis parlons de cette mesure du gouverneur du Nord Kivu qui vise à sécuriser les producteurs de cacao et café. Désormais, la culture du cacao et du café doit être réglementée pour ainsi assurer la traçabilité de ces produits dans cette région en proie à l'insécurité. Albert Paloukoumou Kossar, coordonnateur près le conseiller du gouverneur en charge de l'agriculture, a échangé à ce sujet ce week-end avec les acteurs qui interviennent dans ce secteur. Il revient ici sur les grandes lignes de cette mesure entrée en vigueur depuis le 8 avril dernier. On écoute Albert Paloukoumou Kossar dans ses propos recueillis par la presse de la mairie, extrait choisi par Guylaine Kassassia.
Aujourd'hui, il y a des questions sécuritaires qui sont essentiellement liées à la production du cacao. Concernant les agriculteurs, désormais, ils doivent faire l'objet d'une identification organisée par une commission qui se réunit autour de l'administrateur des territoires de Beni, chacun avec son champ, avec des données géographiques et des géolocalisations. Non seulement avec ces données, mais aussi des mesures de quantification de production approximative pour chaque producteur. S'agissant des acheteurs, vous ne pouvez pas vous hasarder dans la filière si vous n'avez pas un numéro impôt. Vous n'avez pas un dépôt, vous ne fonctionnez pas. Fini ces histoires de balances dans les champs, des avenues pour acheter les cacao. Pour qu'on soit en mesure de retracer les produits, c'est pourquoi l'autorité a décidé, sur proposition d'une commission opérationnelle arrêtée, 2 phases pour la récolte du 12, 13, 14 pour la première phase et du 26, 27, 28 pour la deuxième phase. Et pendant ces 3 jours-là, les forces de sécurité sont déployées dans les champs pour seulement encadrer la récolte, pas d'autre activité.
Tractation pour la formation du gouvernement. La première ministre a bouclé ce week-end ses consultations. Au cœur des échanges entre Judith Suminwa Tuluka et les responsables des forces politiques présentes au Parlement, la réduction du train de vie des institutions. Combien consomment les institutions de la RDC et qu'est-ce qui doit réellement être réduit pour affecter le plus de moyens dans des programmes de développement? Élément de réponse avec vous, Michel Kifindangoy.
Sur un budget de 16 milliards de dollars, les trains de vie des institutions prend plus de 67%, dont 33,10% sont consacrés à l'administration publique. L'enseignement et la santé ont plus de 28%, dont 7% seulement reviennent réellement aux deux secteurs. Les 21 restants sont affectés aux autres affaires liées à l'enseignement et à la santé. Tous les autres secteurs à caractère social ont ensemble 5% seulement du budget national. Dans ces budgets, les dépenses du personnel prennent un total de 29% et en majorité consommées par les gouvernants. En effet, alors que les dirigeants touchent plusieurs milliers de dollars par mois, les fonctionnaires les moins payés ont moins de 100 dollars. Cet écart de plus de 1000%, ajouté à des avantages sociaux exorbitants accordés aux décideurs, consacre l'enrichissement illicite et révoltant des dirigeants face à une population misérable et abandonnée. Le basculement immédiat du budget des dotations au budget programme, qui affectera plus de 80% des ressources dans les projets de développement, reste la solution efficace pour lutter contre les inégalités et le sous-développement, estime un expert à l'Assemblée nationale.
Et puis toujours ici à Kinshasa, parlons de ces plaintes des habitants de quelques quartiers de la commune de Selembao. Ils accusent les policiers de certains sous-commissariats de travailler de connivence avec des bandits urbains dits Kuluna. Ils sont accusés d'arrêter arbitrairement des citoyens et de leur ravir argent et objets de valeur, de jour comme de nuit. Cette façon d'agir est baptisée dans la commune de Selembao phénomène éclaireur. Alphonse Poisson nous en parle.
Parmi ceux qui se plaignent le plus, on compte les habitants des quartiers Koulou et Louboudi, ainsi que tous ceux qui fréquentent la jonction des avenues Selembao et Landou. Comment cela se passe? Un habitant explique.
L'État congolais ne reconnaît pas ces éclaireurs. C'est une organisation de chaque sous-commissariat. Ces éclaireurs sont des Kuluna qui collaborent avec les policiers. Puisqu'ils sont en tenue civile, ils précèdent pour arrêter les personnes. Après interviendra les policiers.
Un étudiant, victime de ces hommes, décrit ce qui lui est arrivé.
Ces éclaireurs étaient nombreux. Ils sont sortis brusquement pour m'arrêter et peu après, les policiers sont intervenus. Je leur ai brandi ma carte d'étudiant, mais ils ont refusé. Ils m'ont menacé, ligoté et m'ont ravi les téléphones, l'argent et tout ce que j'avais.
Le bourgmestre de Selembao promet de se pencher sur ce problème pour y mettre fin.
J'ai beaucoup de plaintes. Les gens m'informent qu'il y a des gens là qui sont en train d'inquiéter la population. Donc on est en train de travailler pour voir comment mettre fin à ce phénomène-là. Comme on s'est battu pour les Kulunas, on va aussi se battre pour mettre fin à ce genre de choses.
Une situation qui survient au moment où la police nationale vient de lancer l'opération Panthère Noire contre le Kuluna à Kinshasa. Confusion donc dans le chef de la population qui voit la police être plutôt des connivences avec le Kuluna pour l'escroquer.
Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, bureau de Lubumbashi, a doté ce week-end de certaines zones de santé de Lubumbashi et des territoires du Haut-Katanga des motos. Il appuie aussi le ministère provincial de la Santé dans la lutte contre certaines maladies, dont le choléra. Le ministre provincial de la Santé a salué ce partenariat qui contribue à l'amélioration de la prise en charge des enfants, notamment dans le domaine de la vaccination. Jean Gandou.
C'est la chef de bureau de l'UNICEF Lubumbashi qui a remis à titre symbolique quelques motos au ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga. Annie Chowa explique le sens de ce geste.
Pendant les campagnes de vaccination, on a besoin de superviser les activités. Quelquefois, les localités sont très enclavées. Avec les motos, elles sont plus accessibles qu'avec les véhicules. Je pense que ce sera d'une bonne utilité pour les zones de santé et également pour la PF.
Pour le ministre provincial de la Santé, cette dotation est d'une grande importance. Joseph Sambibulanda.
Ceci va booster les activités de vaccination en termes de supervision, surtout pour les zones d'accès difficiles. Le gouvernement de la République tient à la vaccination des enfants. C'est dans ce cadre que nous avons un partenariat fort avec l'UNICEF qui nous accompagne. Il y a toujours encore le gap qui est remarqué. Nous allons continuer à faire le plaidoyer pour qu'un autre lot soit disponibilisé pour faciliter la supervision en termes de vaccination.
Notons que l'UNICEF appuie aussi le ministère provincial de la Santé dans la lutte contre le choléra. Cette maladie qui est en pleine éradication a vu malheureusement un autre foyer se déclarer au village Baya sur la route Kasumbalesa et qui a déjà causé mort d'homme. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale. En Côte d'Ivoire, Abidjan accueille le 5e forum Afrique-Europe sur la sauvegarde des patrimoines culturels africains. Ce forum de l'Institut français intitulé « Notre futur » se tient du 20 au 22 avril. L'enjeu de cette édition qui se tient entre plusieurs lieux d'Abidjan est de mettre en lumière les enjeux de valorisation des patrimoines et des mémoires sous le prisme des industries culturelles et créatives. Parmi les pistes proposées par les intervenants, la numérisation du patrimoine.
L'invité.
L'invité du journal de Radio Okapi avant midi, c'est le professeur Ngoma Binda, politologue et auteur de plusieurs livres en éthique politique. Il plaide pour la réduction drastique de l'équipe gouvernementale, la suppression de certaines institutions, le renforcement de la gouvernance participative et surtout la diminution des salaires et avantages attribués aux décideurs politiques. Professeur Ngoma Binda est interrogé par Michel Kifindangoy.
Professeur Ngoma Binda, bonjour.
Bonjour, monsieur Kifinda.
La première ministre pense qu'il faut réduire sensiblement le train de vie des institutions. À votre avis, quels sont les actes concrets qu'elle devait prendre pour matérialiser la réduction des trains de vie des institutions?
Je pense que le tout premier acte que la première ministre doit prendre, c'est de réduire le nombre de ministres. Il n'est pas normal que nous ayons autant de postes de dépenses en termes de ministères. C'est trop budgétivore. Donc, c'est le premier acte. Le deuxième qui doit prendre comme mesure, et c'est celui qui est attendu largement aussi par le peuple, c'est la réduction du montant des émoluments de ceux-là qui gagnent trop. C'est des injustices. C'est des inégalités que la population ne va pas continuer à supporter. Concrètement, lorsque les députés ont 30 000 dollars, 33 000 dollars, ça blesse la moralité des gens et ça énerve parce que y a des gens qui meurent de faim par manque de 1 000 francs simplement pour s'acheter un petit pain.
Alors très concrètement, professeur, s'il faut réduire la taille du gouvernement, vous pensez idéalement une équipe gouvernementale de combien de ministres et combien devrait toucher le personnel politique notamment environ?
Du temps de Mobutu, la moyenne, parce que ça changeait parfois, la moyenne des ministres qu'il avait, c'est dans les 28 ministres ou 30 maximum. C'est la moyenne pendant les 32 ans où il a été au pouvoir. Donc, cela, à notre avis, est tout à fait compréhensible. Par 40, quant aux émoluments, j'ai publié récemment le tableau des émoluments de la Première République. Le président de la République avait 75 000 francs, c'est-à-dire 1 600 dollars à peu près. Au taux actuel, ça, j'ai calculé à 7 800. Le président de la République. Parce que vous savez que le président français a à peu près 12 ou 13 000 dollars par mois. Mais nous, jusqu'à des sommes pharaoniques, c'est anormal. Dans un pays où il y a la grande pauvreté et dans un pays où il y a une grande guerre qui nous est menée, on ne peut pas s'amuser à dilapider de l'argent comme ça. Alors, concrètement, j'ai publié également un article qui indique que les députés nationaux devrait avoir 3 300 dollars par mois. 3 300 dollars, un point, un trait.
Mais le train de vie des institutions, ce n'est pas que le Parlement et les gouvernements. Hein. On pense aussi que les assemblées provinciales sont budgétivores, mais inutiles. Ça fait 15 ans, le bilan de leur travail n'est pas perceptible.
Vous avez raison. Toutes les études scientifiques qui sont menées indiquent que l'apport des assemblées provinciales est absolument nul. C'est même un obstacle à la bonne gouvernance par l'exécutif provincial de sa province. Si la loi peut l'autoriser, on doit pouvoir supprimer les assemblées provinciales ou tout au moins suspendre pendant un certain temps.
Du coup, la décentralisation n'est pas vraiment une bonne expérience pour la RDC. Faut-il revenir à l'État unitaire où le président nomme les gouverneurs, par exemple?
Bon, nous avons tout de même fait un pas vers la démocratisation du pays. La nomination des gouverneurs, ce n'est pas la bonne pratique pour pouvoir renforcer cette démocratisation. Il faut plutôt, et je le propose depuis plusieurs textes, élargir l'assiette des électeurs du gouverneur et même des sénateurs. Si on ne le fait pas et qu'on laisse le président nommer, ça tend à la personnalisation du pouvoir, ça tend vers la dictature. Vous savez, la nomination des gouverneurs par le président Mobutu était dans un contexte de dictature, d'affirmation et de conservation d'un pouvoir dictatorial. Tous les gouverneurs de province qu'il nommait dépendait de lui et pouvait les démettre même sans motif valable. Parce que la mission qu'il leur confiait, c'est d'aller voir qui celui-là qui est contre-révolutionnaire. Comment pouvoir asseoir sa dictature? C'était la mission.
Professeur Ngoma Binda, je vous remercie.
C'est moi également qui vous remercie.